toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau podcast de la rédaction de Game Info. Je suis Mordren et je suis en compagnie de Tyron. Salut Tyron.
Salut.
Aujourd'hui, petite précision, c'est moi qui présente parce que Tyron a besoin de se reposer un petit peu. On n'est que deux parce que il y a eu des petits aléas.
C'est un peu la débandade.
Ouais, bon, ATH s'est excusé cette semaine, Mamie Lamy n'a pas internet, donc on devait être quatre, on est finalement que deux, et heureusement qu'on est deux, parce que au moins, on peut assurer le podcast et le stream. Donc on dit bonjour au chat, salut le chat,
salut les
et
gens.
Moi, je vous présente dès maintenant les news de la semaine. Alors, on va faire un petit point sur le Summer Game Fest qui a ajouté des news au programme, mais aussi la Gamescom qui fait désormais confiance à Jeff Keighley, System Shock 3 qui peut maintenant compter sur le soutien de Tencent, G2A qui fait une jolie boulette et qui essaie de s'en excuser, Command & Conquer Remastered Collection qui donne une très bonne nouvelle juste avant sa sortie, Serious Sam 4 qui pour le coup, lui, se repousse sur console parce qu'il est exclusif sur Stadia et sur Steam, Ghost of Tsushima qui donne des nouvelles et notamment plus de précisions sur son système de combat, on fera le point tout à l'heure, et puis, des mauvaises nouvelles, le coronavirus qui pourrait impacter le travail des développeurs de chez Nintendo, on vous en parlera. Et enfin, Doom Eternal, le système anti-triche des nouveaux, qui va enfin aller se faire foutre. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. On va commencer dès maintenant avec le Summer Game Fest, avec notamment deux nouveaux événements qui sont annoncés pour le 22 juin et le 20 juillet, qui sont des événements qui sont a priori très indépendant-friendly. Et ça, c'est quand même une très bonne nouvelle. Alors, je vais d'abord te passer la parole sur un développeur qui s'appelle, un label qui s'appelle Finji, que moi je connaissais pas, mais dont t'avais envie de parler, Tyron.
Alors, je vous avoue que moi là-bas j'ai mis cette news pour ça. Hein. Le reste, voilà. Mais Mordren vous montrera qu'il y a beaucoup plus de choses intéressantes, hein, n'est-ce pas? Mais moi ce qui m'intéresse c'est Finji, pourquoi? Parce que, dans le label Finji, il y a le développeur de Tunic. Et Tunic, qu'est-ce que c'est? Je rappelle, c'est ce petit Zelda-like avec un renard en vue isométrique qui nous avait bluffé à l'époque parce qu'il est magnifique comme jeu. Et il se trouve que le développeur de Tunic en ce moment il s'active un peu sur Twitter. Donc je suis baudeur que il montrera son jeu à cette occasion, n'est-ce pas? Et il me tarde. Voilà.
Je vous mets quelques petites images de Tunic quand
ouais,
même.
Pendant ce temps-là.
C'est l'occasion. Et effectivement, je me souviens maintenant du jeu. Et c'est vrai que c'est très très joli. Ça a l'air très sympa.
Bah surtout des Zelda-like, encore une fois. On a 3 milliards de Metroidvania, mais des Zelda-like, pas tellement. Hein. Donc,
c'est vrai.
Ça fait toujours du bien d'en avoir un peu. Voilà.
Ouais, c'est cool. À voir. Donc on aura certainement des nouvelles de Tunic hein, à ce moment-là. À savoir que donc c'est le 22 juin 17h heure française, ça sera probablement sur la chaîne YouTube des Game Awards. Ce qui est intéressant, c'est que il y a pas que Finji et Tunic qui a priori vont se présenter.
Oh, il y a beaucoup de labels là.
d'autres labels et des développeurs indépendants en tant que tels. Alors, ce qui est toujours un peu spécial avec ce genre de développeurs, c'est que leurs noms, on les connaît pas vraiment, mais leurs jeux, par contre, beaucoup plus.
Ouais.
Donc, je pense notamment à Annapurna Interactive, c'est quand même les gens qui sont derrière Edith Finch. Je pense à The Behemoth, c'est Castle Crashers et Battlebrock Theater.
Voilà.
Kowloon Knight, c'est Spiritfarer, dont on vous a déjà parlé.
Et qui nous hype furieusement, en plus.
Voilà, donc il est fortement probable que le 22 juin, on ait de très belles images de Spiritfarer, et j'en suis très heureux. Panic, c'est un éditeur qui a notamment édité Untitled Goose Game.
Voilà.
Et qui a aidé les développeurs de Campo Santo avec Firewatch à l'époque. Sabotage Studio, c'est les développeurs de The Messenger, mais c'est aussi ceux qui ont fait un Kickstarter très récemment sur Sea of Stars, dont on vous a parlé régulièrement. Skybound Games, bah, ce sont les repreneurs des anciens jeux de Telltale. Ce sont eux aussi qui utilisent la licence de The Walking Dead, puisque Skybound, c'est l'éditeur de Walking Dead.
Oui. Donc, c'est à voir ce qu'ils ont. Le label, en fait, du créateur de Walking Dead, il me semble.
Exactement. Ouais. Robert Kirkman. Donc, à voir ce qu'ils ont à nous présenter. Team 17, c'est les gens qui font Golf With Your Friends et qui ont fait récemment Moving Out, qui est un petit jeu qui ressemble un petit peu à Overcooked, mais l'idée c'est de déménager.
Et puis c'est Worms aussi, accessoirement.
Voilà. Ah oui, également. That Game Company qu'on ne présente plus, hein, parce que c'est Flower et Journey. Tribute Games qui a fait récemment Flint Hook, qui avait récolté pas mal de bons tests.
Excellent Flint Hook, si vous n'y avez pas joué.
Et puis Us 2 Games, qui sont des développeurs de jeux mobiles, qui sont notamment derrière Monument Valley, mm-hmm. qui est très très régulièrement dans les classements des meilleurs jeux mobiles. Ouais. Donc voilà, c'est du lourd, l'air de rien, sur les développeurs indés. Mm-hmm. Et moi honnêtement, j'ai très très hâte de voir ce qu'ils ont à nous présenter.
Ouais, non mais là, honnêtement, ils ont regroupé du beau monde. Donc ça, plus l'autre événement dont on avait parlé la semaine dernière, qui va se dérouler début juin, je pense que pas mal de studios indépendants vont pouvoir s'exprimer. Parce qu'on pourrait se dire, bon, ouais, ça fait quand même beaucoup d'événements, mais honnêtement, pour les indés, il y en a tellement que je veux dire, c'est pas plus mal, en fait, qu'il y ait plusieurs événements, tu vois. Donc,
c'est ça.
C'est, pour les gros éditeurs, c'est sûr que là, c'est beaucoup plus... ça serait beaucoup plus bizarre d'avoir 36 000 événements, mais là, honnêtement, je veux dire... Il y a tellement de studios indés qu'il faut bien répartir un peu tout ça, quoi.
C'est ça. Mmh. Donc, pour résumer, déjà, le Summer Game Fest, c'est quand même pas mal rempli, puisque du 9 au 14 juin, on a le Steam Game Festival. Le 11 juin, on a une présentation de Cyberpunk 2077 par CD Projekt Red. Le 11 juin également, on a l'EA Play qui commence. Le 22 juin, on a ce fameux showcase de développeurs indépendants. Mm-hmm. Ensuite, en juillet, on passe à la TennoCon, donc c'est pour tout ce qui est Warframe.
Ah, ça va être bien, regardez.
Voilà. Le 12 juillet, on a l'Ubisoft Forward, donc qui va être la conférence d'Ubisoft pour cette année. Le 20 juillet, le deuxième volet du développeur showcase des indépendants. Et, transition toute trouvée, le 27 août, on a un événement qui est lié à la Gamescom, puisqu'on en a parlé la semaine dernière. La Gamescom n'aura pas lieu en physique cette année.
Ouais, mais ils sont un peu moins débiles que l'E3.
C'est ça. Donc au lieu de s'arrêter purement et simplement, ils ont décidé de faire un événement en ligne. Alors tu vas me dire, ils ont peut-être un petit peu plus de temps pour le préparer, certes, mais bon, ça fait un moment quand même que l'E3, on sait que c'était...
Tu vas pas me dire que Geoff Keighley, il est capable de le faire et que le SA, ils sont pas capables, quoi. Au bout d'un moment, c'est une question d'argent, quoi, et de moyens, quoi, enfin...
C'est ça. Donc, le 27 juin, on a un événement qui s'appelle l'Opening Night Live, qui sera donc la soirée d'ouverture de la Gamescom le jour où elle aurait dû commencer. Mm-hmm. Mais il y aura des événements jusqu'au 30 août, avec notamment des émissions quotidiennes. Et puis, le 30 août, une émission de fermeture, avec un certain nombre de jeux qui seront représentés, mais aussi récompensés. Mais on ne sait pas exactement comment,
ouais,
mais a priori, voilà.
Ouais, ça va. Vous connaissez mon opinion là-dessus, hein,
Voilà.
Bon, ça, quel que soit le média d'ailleurs, pas forcément que les jeux vidéo, mais bon, ce genre de cérémonie, honnêtement, ça a rarement de l'intérêt. Alors, je comprends que les gens qui développent soient contents de recevoir des prix, c'est normal, tu vois, mais pour le joueur moyen, s'il n'y a pas d'annonce, je veux dire, on s'en fiche un peu, quoi.
C'est ça. Donc, ce qui va se passer, c'est qu'a priori, il y aura un peu un grand barnum pour l'Opening Night, donc le 27 août. On aura aussi... une émission qui sera dédiée aux indépendants, ça sera les Awesome Indies, et puis du coup un daily show pour du quotidien. Truc à noter, qui est important à noter d'ailleurs, c'est que tout ça va être géré conjointement avec Geoff Keighley, donc on en parle très régulièrement, c'est celui qui s'occupe du Summer Game Fest, mais c'est aussi le producteur et présentateur qui s'occupe des Game Awards, Monsieur Doritos, comme on l'appelle dans le milieu.
Et qui, mine de rien, LKBD nous faisait remarquer l'autre jour sur le Discord de Game Info. Oui, nous avons un Discord, mesdames et messieurs, on vous mettra le lien. Il faut que je fasse la pub du Discord. Clitia a fait tous ses efforts pour nous le créer. Comme le disait LKBD l'autre jour sur le Discord, c'est quand même... il commence à prendre de l'importance, monsieur Geoff Keighley, hein, mine de rien. Et bon, alors LKBD s'interrogeait sur le fait que est-ce que c'est pas un peu dangereux, entre guillemets, enfin, mais d'avoir quelqu'un qui a autant d'importance dans l'industrie vis-à-vis de la communication, des studios, etc. Pour redire ce que j'avais répondu à LKBD dans le chat, honnêtement, je pense que si Geoff Keighley prend autant d'importance, c'est pas tant qu'il y a un acteur incontournable, c'est surtout que c'est quelqu'un qui sait faire.
C'est ça.
Et je pense que dans l'urgence, ils ont pas vraiment d'autre choix en fait. En tout cas, s'ils veulent faire quelque chose de propre, quoi. Ils sont allés chercher quelqu'un qui sait faire le taf, qui a une entreprise à mon avis qui ne fait que ça. Donc bon, voilà, ils sont allés au plus simple, j'ai envie de dire, quoi. Après, honnêtement, je veux dire, si à un moment donné ça colle plus avec Geoff Keighley pour une raison X ou Y, ces événements font tellement pognon qu'ils auront aucun souci à faire autre chose, quoi. Enfin, ils peuvent s'organiser autrement. Là, c'est juste que cette année, bon, c'était un peu chaud patate, quoi.
Ouais.
Mais voilà, pour la suite, je veux dire, Geoff Keighley n'a pas l'exclusivité. Et puis surtout avec les éditeurs. Alors, encore pour les petits studios, on pourrait en discuter, tu vois. Mais les éditeurs, honnêtement, quelque chose me dit qu'ils vont vite reprendre en main la communication de toute façon, parce que ils veulent avoir la main sur ce qu'ils disent, etc. Quoi. Donc.
Bien sûr. Ouais, je suis d'accord avec toi. Je pense que ça veut pas forcément dire que à l'avenir, c'est Geoff Keighley qui va, de façon monolithique, faire toute la communication de tous les éditeurs de jeux vidéo.
Bah, surtout, regardez, même là, au début, on a parlé d'un autre événement la semaine dernière, c'est pas Geoff Keighley, hein, c'est PC Gamer et compagnie, quoi. Donc,
c'est ça. Mais d'ailleurs, enfin, je suppose quand même que son objectif à Geoff Keighley, c'est un petit peu de les mettre dans l'ombre, ces événements-là.
Ah bah, évidemment. Hein. C'est
son cœur de métier. Donc, voilà. Mais d'ailleurs, notons quand même que les premières initiatives, c'est pas Geoff Keighley qui les a lancées. Justement, c'est plutôt PC Gamer, IGN, etc. Mm-hmm. Et là, il a quand même fait le taf pour les invisibiliser, disons. Quoi qu'il en soit, je pense que dans ce genre de circonstances, quand tu es un éditeur ou un organisateur de conférences ou de salons, quand tu ne sais pas faire ça, parce que c'est pas du tout leur cœur de métier, hein, les organisateurs de conf, tu vas plutôt aller voir quelqu'un qui a pignon sur rue,
c'est ça,
et qui a plusieurs fois montré dans le passé qui sait faire ça. Et les Game Awards, on pourra critiquer ce qu'on veut, mais ça marche.
Ça marche, et c'est mieux foutu que le PC Gamer Show, par exemple.
C'est ça.
Alors que ça fait plusieurs années qu'ils font un truc quand même, le PC Gamer Show. C'est ça. Donc,
maintenant, est-ce que ça veut dire que dans l'urgence, parce que encore une fois, hein, là, on parle d'organisateurs qui font les choses dans l'urgence, mais derrière, ça veut dire qu'aussi en bout de course, les gens qui sont dans l'équipe de Geoff Keighley, ils sont aussi en train de faire des choses dans l'urgence, à monter des événements. On sait pas exactement si ça aura la même gueule que la conf Inside Xbox qu'on a vu il y a deux semaines et qui était nulle à chier, tu vois.
C'est ça.
Donc, si ça se trouve, c'est pas parce que le mec est pro que on va avoir un truc dingue.
Bah, surtout que en plus, là, mine de rien, c'est sympa hein, pour faire plusieurs événements, mais au bout d'un moment, ces équipes... Enfin, j'espère qu'il a mis les moyens derrière, quoi. Tu vois,
c'est ça. Parce que, encore une fois, c'est des équipes qui ne peuvent pas non plus forcément travailler en présentiel. Donc, c'est compliqué aussi pour eux. Alors là, pour le coup, la Gamescom, ça leur laisse 3 mois pour préparer. Donc, à voir ce qu'ils vont nous concocter.
Bah,
mais,
en plus, ils sont pas tout seuls quoi dans l'affaire, j'ai envie de dire. Quoi, parce que ça fait autant de studios à contacter pour qu'ils filent des trailers, des machins, des bidules. J'imagine qu'il faut s'entendre un minimum sur la communication. Enfin, c'est quand même tout un truc à mettre en branle. Quoi. Enfin, c'est pas rien. Quoi. Y a toute une infrastructure derrière qu'il faut mettre en place. Quoi.
Ouais. Donc, moi, je suis pas surpris qu'ils aillent voir ce monsieur-là. Maintenant, ça veut pas dire que il va devenir tout puissant ou quoi. Enfin, c'est vraiment, je pense que c'était la meilleure solution qui s'offrait à ce genre de personnes comme les organisateurs de conf ou quoi. C'est, je pense que c'était le meilleur moyen pour eux d'organiser quelque chose, d'avoir quand même un semblant d'existence pour leur marque cette année, parce que vraiment là on parle carrément d'une année blanche hein, pour un certain nombre d'industries. Donc je pense que c'est quand même pas mal pour eux d'être sur le terrain quoi.
Ouais. Alors dans le chat ça évoquait Sony Microsoft, effectivement ils sont étrangement silencieux ces derniers temps.
Alors Microsoft, on sait qu'il y a une présentation des jeux Xbox Game Studios pour juillet. Ça, on nous en a parlé pendant l'Inside Xbox.
Pitié, s'il vous plaît, quoi, Microsoft, sortez-vous les doigts, parce que là, ça commence à être flippant, là. Franchement, la console, elle sort à la fin de l'année. On n'a aucune idée des... on sait qu'il y a un Halo, parce qu'ils avaient annoncé un Halo il y a très longtemps, tu vois, mais, enfin, on n'a rien, quoi. Enfin, c'est chaud, quand même, hein. Enfin, moi, je sais pas ce que vous en pensez, mais, moi, je trouve ça un peu chaud patate, quoi. La console est censée sortir à la fin de l'année. Bon. Après, ça, c'est la théorie, hein. On en reparle à la fin de l'année. Sony, bon, j'ai un peu plus confiance parce que ils ont montré là récemment avec Ghost of Tsushima que quand il fallait communiquer, ils savaient faire, quoi. En tout cas, ils savaient mieux faire que Microsoft. Parce que je suis désolé, la présentation Ghost of Tsushima, c'est bien plus intéressant que ce que nous a fait Microsoft récemment, quoi. C'est clair. Mais bon, eux aussi, il va falloir qu'ils se bougent quand même, hein, parce que. Les consoles, elles arrivent, là, les gens. Faut donner des raisons, parce que c'est bien beau de dire, les super SSD, les caractéristiques, etc. Mais au bout d'un moment, c'est les jeux qui vendent les consoles, quoi.
Ouais. Et The Host qui nous dit, parce que j'en parlais vite fait dans le chat pendant que t'étais en train de parler, d'après un journaliste de VentureBeat, il y aurait une conf Sony qui serait prévue pour le 4 juin, mais encore une fois, rien n'a été annoncé ou confirmé, et comme The Host le fait bien de le noter, Sony s'est quand même fait une grande habitude de communiquer systématiquement après Microsoft. Évidemment, on sait pourquoi, c'est dans l'objectif de derrière leur mettre un taquet. C'est exactement ce qui s'était passé à l'époque de la présentation de la Xbox One, où derrière en fait Sony avait dit bah vous voyez cette console là elle est uniquement en ligne, ça veut dire que vous pouvez pas vous prêter vos jeux, et donc ils avaient évidemment organisé ce petit sketch pour montrer que c'était possible sur PS4, et donc évidemment ça avait enflammé la toile, etc. Mais ça c'est très clairement l'objectif de Sony, c'est d'appuyer là où ça fait mal. Donc c'est pas du tout sûr que le 4 juin on ait véritablement tout ce qu'il faut sur la PS5.
Ouais. Et moi il y a quand même un truc qui fait peur avec Microsoft, c'est que autant Sony on sait qu'ils ont déjà un nombre de studios qui sont bien établis, tu vois, qui bossent, hein. Ça plus le fait qu'ils ont tendance des fois à faire des partenariats par exemple avec From Software ou ce genre de choses. Autant Microsoft, je me pose toujours la question du est-ce que les studios qu'ils ont achetés c'était il y a 2-3 ans déjà,
un truc comme ça,
est-ce que ces studios là ont eu le temps de vraiment plancher sur quelque chose, quoi, parce que je vois beaucoup ces studios, tu vois par exemple Obsidian, ils ont leur espèce de jeu de survie en mode chérie j'ai rétréci les gosses, ou
tout à fait,
ou encore t'as comment il s'appelle, Brian Fargo, là son studio c'est quoi déjà, c'est InXile, t'as InXile qui va sortir bientôt Westland 3 là. Westland 3 c'est très bien, hein. Moi en tant que joueur PC je suis très content, mais je suis pas sûr que les joueurs Xbox à qui on est en train de vendre la 4K ils en aient quelque chose à foutre, tu vois. Je dis ça, je dis rien. Donc est-ce que ces studios là en parallèle des projets sur lesquels ils étaient déjà, parce que c'est des studios qui bossaient déjà sur des trucs avant, Ninja Theory pareil, etc., est-ce que ces studios ont eu le temps de faire quelque chose d'intéressant pour le lancement de la machine, ou même quelque chose à montrer, tu vois, pour le futur de la machine? Parce que bon, si c'est juste pour faire comme la Xbox One, alors je ne doute pas que Microsoft proposera des services intéressants, ce genre de choses, mais voilà, au bout d'un moment, on va falloir se sortir les doigts, quoi.
Ben, on sait déjà que Microsoft va se passer de Killer App pour sa Xbox Series X, puisque de toute façon, ces jeux sortiront sur PC. Et seront aussi disponibles sur Xbox One. Donc, je pense que je suis pas sûr que le démarrage de la Xbox Series X soit tonitruant.
C'est ça.
Je pense que ils vont continuer leur stratégie de dire bon bah voilà, si vous voulez une console qui est capable de vous apporter le meilleur de ce qu'une console est capable d'apporter en ce moment, bah c'est la Xbox Series X machin. Ok, certes, mais en plus, et je pense que c'est vraiment là leur cheval de bataille, c'est le Xbox Game Pass. C'est-à-dire que je serais pas surpris que au lancement, quand t'achètes une Xbox Series X qui va évidemment être très chère, t'aies le droit à, je sais pas, 3, 6 mois, 1 an de Xbox Game Pass. Et là, pour le coup, ça serait un gros coup quand même. histoire de dire, bah voilà, en fait, vous achetez une console qui est certes très chère, mais derrière, vous avez un catalogue de 100 jeux déjà.
Oui. Alors après, encore une fois, je le redis, hein, moi, je suis abonné au Game Pass, je suis très content des jeux que j'ai dessus. Bon, c'est parce que je suis toujours abonné et que j'envisage même de rester abonné après qu'ils aient augmenté le prix.
Ouais.
C'est bien plus intéressant que ce que propose Sony, par exemple, avec le PlayStation. C'est plus ou Now, je sais plus, ils ont tellement de...
PlayStation Now.
Ouais. Voilà, enfin, moi, je suis très content du Game Pass, mais encore une fois, c'est pas, je pense pas que ce soit avec les jeux du Game Pass actuel, en tout cas, que tu vends, une console à... Combien il va coûter d'ailleurs, ça c'est la question aussi qu'il va falloir qu'ils répondent quoi. 400, ouais. 500 balles. Faut quand même, si tu veux, quand tu vends, parce que là jusqu'à maintenant le truc c'est qu'ils ont la communication. On est d'accord, ça a été essentiellement sur la techno, tu vois.
Oui.
Si après avoir fait cette com là, Microsoft met pas les jeux derrière, bon, voilà, c'est.
C'est ça.
C'est sympa, mais bon.
Mais après, je pense que la console va se lancer avec Halo Infinite. Mm-hmm. C'était un petit peu obligé à ce niveau-là. Derrière, comme le dit très bien Polotube, faut l'alimenter le Game Pass. C'est puisqu'on sait que l'objectif de Microsoft, ça va certainement continuer avec la Series X, c'est de toute façon, t'es abonné Game Pass, les nouveaux jeux, ils sont déjà dans ton Game Pass Day One. Donc derrière, il faut l'alimenter pour donner envie aux gens de s'abonner. Pour l'instant, sur la génération actuelle, c'était tout bénef parce que on avait les jeux Xbox Game Studios qui arrivaient Day One, et en plus, on avait des jeux, souvent des gros jeux, voire des triple I, qui intégraient le qu'on avait déjà eu l'occasion de jouer ou de voir et de voir que c'était très bien. De pouvoir y jouer, c'était nickel. Maintenant, sur une nouvelle génération de consoles, certes, on aura encore ce catalogue-là, mais c'est un catalogue sur lequel on a déjà eu l'occasion de jouer.
Oui.
Donc, voilà, c'est que...
Ça
faudra voir.
Ça plus le fait que, bon, pour revenir un peu dans le monde réel aussi, ça va être chouette économiquement là dans les mois qui viennent. Hein.
Tu es d'accord?
Les gens, je peux te dire qu'ils vont y réfléchir à deux fois avant d'acheter une console à 500 boules. Hein. Donc,
ouais.
Bon, ça plus le fait que encore une fois, moi, je les trouve très optimistes quand ils disent qu'ils vont sortir leur console à la fin de l'année, mais je ne demande qu'à voir ça. Hein. Voilà.
Bah je veux bien les croire, hein, mais par contre, faudra pas s'étonner qu'il y ait des ruptures, hein,
ouais.
Parce que, enfin, en termes d'approvisionnement, c'est évident qu'ils vont jamais tourner à plein régime, et derrière, enfin, en fait, moi, je suis très surpris qu'ils insistent vraiment sur cette période. Alors, on sait évidemment que passer un Noël, c'est pas pareil pour un lancement de console. Je suis d'accord. Mais c'est pas un Noël, c'est un Noël particulier quand même qui s'annonce 2020. Les gens, est-ce que les gens vont être capables de se lancer dans un achat d'une console, d'une manette, de jeu? C'est pas sûr, hein. Donc faut voir si ça se trouve, un lancement en mars, ça sera beaucoup plus simple et beaucoup plus facile pour les gens de s'y lancer, on n'en sait rien, hein. Mais je suis pas sûr que se lancer le premier sur cette next-gen, entre guillemets, soit forcément le bon plan.
Ouais.
Enfin, l'histoire nous le dira, on va passer à la suite, et pareil, encore une fois, l'histoire nous dira si System Shock 3 sera bien. Ou pas.
On sait que
il y a eu quelques soucis quand même, hein, chez Otherside, donc ils sont en train de développer System Shock 3. Il y a eu pas mal de soucis, hein, une vague de licenciements, notamment la perte de son soutien d'éditeur avec Starbreeze. Ensuite, du coup, cette vague de licenciements.
Bon, sachant que Starbreeze, en plus, déjà, eux, ils étaient dans la merde, hein, financièrement. Donc, ils avaient pas trop envie de s'encombrer d'Overside en plus, quoi, tu vois, c'est...
c'est ça. Donc, ça a été, je crois que ça a été vraiment très compliqué pour le studio qui, à tel point qu'ils ont été obligés de revendre les droits de la licence. Ce qui fait que, voilà, c'est très compliqué pour System Shock 3. On a appris cette semaine que bah voilà, il y a eu un soutien financier de la part de Tencent, évidemment, qui alors permettra la suite de ce développement a priori, mais ne reprend pas la licence de System Shock, la licence qui est chez Night Dive Studios, qui sont à l'heure actuelle en train de travailler sur un remake du premier System Shock. Voilà, donc je sais pas si t'avais des choses à rajouter sur cette news.
Bah,
mais c'est compliqué quand même. Hein.
Bah après c'est une bonne nouvelle parce que le problème, c'est le studio Warren Spector, on le rappelle quand même. Hein,
ouais.
C'est le studio. Le problème de Warren Spector, c'est que c'est quelqu'un qui fait beaucoup d'itérations, tu vois, qui fait beaucoup d'expérimentations. Et le problème, c'est que ce genre de développement, on va dire, ça demande du pognon, quoi. Et c'est pour ça que les derniers jeux de son studio étaient pourris, parce que, enfin, je suis désolé, hein, Overside, c'est honteux, les jeux qu'ils ont sortis, là, c'était quoi, leur, ils avaient sorti un RPG, là, je crois que j'avais financé un peu sur Kickstarter. Enfin, bref, peu importe. Le problème, c'est que, ça demande de l'argent. Et donc, avoir le portefeuille de Tencent, je pense que c'est la meilleure chose qui pouvait lui arriver, en fait. Surtout que Tencent, pour avoir vu ce qu'ils ont fait, hein, je rappelle que Tencent, quand même, c'est pas le premier jeu, enfin le premier studio qu'ils financent. Hein, Path of Exile, ils sont financés par Tencent. Warframe, ils sont financés par Tencent. Vous connaissez mon amour pour ces deux jeux. Hein. Tencent, a priori, ils mettent de l'argent, mais ils imposent pas trop au studio la manière dont ils travaillent. Enfin, ils sont pas trop regardants du moment que les gens bossent correctement, quoi, on va dire. Donc, je pense que c'est le meilleur deal que Warren Spector pouvait avoir. Donc, écoute, tant mieux pour lui. J'espère que ça lui donnera l'occasion de se remettre un peu sur le vent de la scène, parce que là, c'est vrai que ces dernières années, il galère un peu. Hein, je crois que c'est...
Oui, je crois qu'on peut le dire. Oui.
Je crois que c'est pas lui faire un jour de lui dire ça, quoi, quand même. System Shock 3 est enfin, c'est encore un exemple, tu vois. Enfin, les gars, ils y arrivent pas, quoi.
C'est ça. Après, est-ce que sur ce genre de développeur, il faut pas justement serrer un peu la vis, tu vois? C'est la question que je me pose à chaque fois, tu vois, c'est
Bah, disons que, ouais, c'est sûr que il faut pas non plus qu'il parte en mode Chris Roberts.
C'est ça.
Et bah, j'imagine quand même que Tencent, ils vont quand même regarder ce qu'il fait, tu vois. Mais enfin, j'espère pour eux, en tout cas, parce que c'est sûr que quand il part en roue libre, le Perspector, il est pas mal dans son genre aussi, quoi. Bah, là, je veux dire, c'est pas pour rien que tous ces derniers projets, même Epic Mickey, tu vois, ou ce genre de choses, c'était compliqué, quoi.
Moi, j'ai fait Epic Mickey là sur 3DS. Et alors, a priori, je suppose que la supérieure version, elle était sur Wii à l'époque, hein, mais sur 3DS, j'ai vraiment pas passé un bon moment.
Voilà, voilà.
Voilà.
Alors, bon. Excusez-moi, je crois que j'ai confondu Night Dive avec Attends, mais c'est Night Dive où il est là, ou c'est quoi son... C'est Overside, hein, c'est ça?
C'est Overside, ouais. Donc Overside...
Ouais, parce que j'ai dit Night Dive tout à l'heure, il me semble, c'est une bêtise ce que je dis.
Donc c'est chez Overside que c'est très compliqué. Et
Night Dive, ils avaient commencé à faire de la merde et ils se sont rattrapés. Parce qu'au moment d'un moment donné, ils avaient voulu carrément faire autre chose. Tu vois, ils étaient partis sur un autre truc. Et ils se sont rendu compte qu'ils avaient eu les yeux plus gros que le ventre. Et ils sont repartis sur un remake de System Shock en bonne et due forme.
C'est ça. Donc, à voir. Hein, ça reste une licence qui est importante dans le jeu vidéo. À voir ce qui va se passer. Mais ça reste une bonne nouvelle.
Alors, juste une dernière chose. C'est Underworld Ascendant, auquel je pensais tout à l'heure. Cette espèce de honte que j'ai financée sur Kickstarter. Je crois que c'est mon plus gros regret sur Kickstarter, quoi. C'est une honte, ce jeu, quoi. Sérieux.
On le répète à longueur d'émission, hein. Quand vous financez un jeu sur Kickstarter, c'est de l'argent que vous envoyez par la fenêtre.
Voilà.
Et peut-être que, de temps en temps, par cette même fenêtre, il y a un jeu bien qui rentre. Mmh. Mais c'est pas sûr. Bon, on parlait de roue libre tout à l'heure. Roue libre, c'est un petit peu une expression qui peut bien traiter de G2A, cette plateforme où on peut acheter des jeux, des clés de jeu dont on ne sait pas spécialement d'où elles viennent.
Ce qu'on appelle le marché gris, hein. Voilà.
C'est ça, à des prix modiques. Il y a quelque chose de très intéressant qui s'est passé cette semaine de la part de G2A, c'est que ils ont reversé $40,000 au studio développeur de Factorio. Parce qu'ils se sont rendus compte, après une enquête assez poussée, que il y avait un certain nombre de clés qui avaient été vendues chez G2A qui avaient tout simplement été volées.
Oui. Parce qu'on rappelle que, je sais plus si c'était l'année dernière ou il y a 2 ans, c'est le torchon brûlé, on va dire, entre les développeurs, surtout indépendants, et G2A, parce que les développeurs indépendants les accusaient clairement de revendre des clés avec des cartes bleues volées, ce qui faisait que du coup, quand les gens se faisaient rembourser via la carte bleue, ben du coup, ça faisait perdre de l'argent au studio, en fait. Tout simplement. Ouais. Et du coup, G2A disait, mais non, pas du tout, voilà, tout va bien, madame la marquise. Et même d'ailleurs, si vous voulez qu'on vous prouve notre bonne foi, si vous nous prouvez que telle somme a été prélevée à cause de ça, on vous reverse 10 fois la somme, je crois, ou un truc comme ça.
Oui, c'est ça.
Et du coup, ben, je crois que malheureusement le développeur Factorio a été le seul à les prendre vos mots. Mais il se trouve que après enquête, effectivement, ils se sont rendus compte que ah merde, c'est vrai. Oups. Et donc du coup,
la somme n'est pas modique, hein, c'est 40 000 dollars.
Grande séance de mea culpa, du coup.
Oui, non, c'est bien parce que c'est vrai que G2A, c'est compliqué depuis des années. Hein. On le sait, moi personnellement j'ai arrêté d'acheter des clés chez G2A depuis un moment, depuis que je sais. Depuis que j'ai pris conscience de ces choses-là, de la même manière d'ailleurs que la plupart des sites de clés, enfin j'y vais plus. Parce que c'est toujours assez difficile de savoir d'où elles viennent, ces clés. Et souvent tu te rends compte que c'est pas spécialement très odorant, quoi. Donc c'est bien, j'espère que ça va permettre aussi à la plateforme de faire un peu le ménage, ça j'en doute, mais là l'objectif très clairement c'est de dire bon bah voilà, on a compris que ça existait, maintenant derrière c'est qu'est-ce que vous faites, vous G2A, en tant qu'entreprise, pour faire en sorte que ça ne se passe plus.
Oui, parce que bon, c'est gentil la communication, quoi, mais...
C'est ça.
Faut que ça soit suivi d'actes derrière. Bon, après, tu me diras, 40 000 dollars, c'est déjà un acte qui est sympathique, mais il y a plein de studios qui n'ont pas fait la démarche de demander, de voir s'ils pouvaient se faire rembourser, tu vois. Ça serait bien qu'ils fassent en sorte que, en tout cas, ça ne se reproduise plus.
Voilà. Ouais. Et d'ailleurs, Chris Faita, dans le chat, nous dit que chez GK, on dit en gros mieux vaut pirater que d'acheter là.
Bah oui.
Et c'est exactement ce que disaient les développeurs de Factorio. Ils disaient qu'ils préféraient largement que leur jeu soit piraté plutôt que d'être vendu chez G2A.
Ah oui,
donc
parce que dans le cas du piratage, c'est pas de l'argent qui est perdu pour le développeur, alors que là, ça va taper directement dans les cas du dev, quoi. Donc.
Ouais, ouais. Non, mais c'est vraiment hyper important de prendre conscience de cette problématique-là. C'est que, certes, ta clé, tu la payes moins cher, donc t'es content en tant que consommateur. Mais derrière, en fait, ce que tu fais à l'industrie, et surtout, aux développeurs indépendants.
Ouais, parce que bon, si tu veux, moi, je vais pas pleurer pour Ubisoft et compagnie, si tu veux, mais pour des petites boîtes comme ça qui sont déjà très short sur le budget, voilà, faites attention, quoi, quand même.
Voilà. Donc, bon, une bonne nouvelle, en tout cas. On sait pas si ça sera suivi d'autres développeurs, mais il va falloir faire attention, hein, s'ils veulent pas se faire vider leur caisse, par contre, chez G2A.
Comme dit LKBD, après, il y a des vendeurs qui sont réglo, hein. Par exemple, Guest Planet, c'est des vendeurs officiels qui ont des accords avec les studios qui font régulièrement des bons deals, tu vois. Il y a quelques vendeurs comme ça. Mais il faut se renseigner avant, quoi.
D'ailleurs, enfin, ça se voit tout de suite, hein, le site de clé qui est vertueux, hein, tu vois que les prix sont pas non plus,
tout à fait les mêmes.
dérisoires, quoi. Non, mais c'est au bout d'un moment, ça te paraîtrait bizarre d'acheter une paire de pompes qui vaut 100 balles normalement, 10 balles. Bah là, c'est pareil. C'est exactement comme ça. Bon, on va parler d'une bonne nouvelle. Pour une fois, Command & Conquer Remastered Collection. Bon, déjà, le jeu arrive le 5 juin 2020, donc c'est bientôt. Et en plus, on a eu sur Reddit des nouvelles des développeurs qui ont donné de petites infos bien sympathiques, notamment le fait que, les codes sources de Tiberian Dawn et de Red Alert allaient être open sourcés.
Donc ça veut dire, les modeurs, faites-vous plaisir, c'est parti.
Exactement. Et du coup, même chose, les jeux remasterisés vont être vont particulièrement soutenir les modeurs, mm-hmm. puisqu'il sera possible de créer carrément ces maps, de créer ces unités. D'ailleurs, les développeurs du remaster l'ont fait eux-mêmes. Ils ont développé une nouvelle unité qui s'appelle le Nuke Tank. Donc voilà, histoire de montrer que c'est possible et tout ce qu'on peut faire avec ces possibilités-là. Moins bonne nouvelle pour le coup, c'est la fonctionnalité LAN ne sera pas dispo au lancement du jeu. Parce que voilà, à cause des corona délais, c'est toujours prévu, mais ça sera pas au lancement.
Oui, parce qu'on rappelle qu'ils ont dû revoir tout le code réseau du truc quand même. C'est pas
bien sûr.
Voilà, il a quand même fallu retravailler pour que ça soit intégré à des plateformes comme Steam, etc. Donc bon, ils ont quand même fait du beau boulot, quoi. Ouais. Bah moi j'ai envie de dire, ouais, c'est ce qu'on aurait aimé voir sur Warcraft 3, quoi. Ah non, mais voilà, c'est quand même dingue de se dire que Electronic Arts, parce que c'est quand même Electronic Arts, là, enfin, la licence, elle appartient à Electronic Arts, en tout cas.
Tout à fait.
Alors certes, on voit que les développeurs, je rappelle la news qu'on avait faite, tu sais, sur, je crois que c'est un des responsables du studio, tu sais, qui avait fait le tour du pays pour retrouver les archives et qui avait retrouvé des séquences filmées, etc., qui sont rajoutées en bonus, d'ailleurs, dans ce remaster. Enfin, tu vois que c'est des gens qui sont passionnés par cette licence. Et tu vois la différence avec Warcraft 3, quoi. Warcraft 3, c'est un produit qui a été rushé, vite fait, mal fait, où t'as les trois quarts des fonctionnalités. Non, j'exagère un peu. Non, pas les trois quarts des fonctionnalités, mais t'as quand même une bonne partie des fonctionnalités qui étaient manquantes au lancement, et où ils ont même carrément dit qu'il y en a certaines qui reviendraient pas. Tu vois. Où ils ont quand même, et ça, c'est le plus grave à mon sens, parce que à la limite, que tu fasses un remaster de merde, ok. Par contre, que tu remplaces le jeu d'origine, dans les librairies des gens sur Battle.net,
ah ouais, ça c'est
ça pour moi c'est le plus gros scandale hein, dans cette histoire. Ah ouais, et surtout que ils auront beau faire ce qu'ils veulent chez Blizzard, tant qu'ils auront pas remis le jeu d'origine chez les gens qui avaient ce jeu-là à la base, pour moi ça sera un pur scandale, quoi. Parce que ok, tu fais de la merde sur ton remaster, très bien, mais t'imposes pas ta merde aux gens qui avaient déjà le jeu, quoi. Enfin, c'est purement scandaleux, quoi. Donc et là tu vois quand même un jeu Electronic Arts qui fait la leçon à Blizzard, quoi. C'est là que tu dis qu'il y a quelque chose qui va vraiment pas chez Blizzard ces derniers temps.
Ou alors c'est là que tu te dis que cette team là ils ont vraiment carte blanche chez Electronic Arts.
Bah, à la limite, c'est ça qui est... Après c'est vrai que bon, c'est comme un Conquer, je pense qu'Electronic Arts ils ont pas grand chose à battre, hein, faut être très honnête. La dernière fois qu'ils ont essayé de faire quelque chose avec comme un Conquer, c'était un jeu mobile totalement OSEF. D'ailleurs ce jeu là c'est, faut se rappeler que c'est une lettre d'excuse aux fans de Command & Conquer, hein.
Tout à fait.
C'est un peu comme Star Wars, tu vois, enfin Jedi Fallen Order, c'est la lettre d'excuse. Ils font des belles lettres d'excuse, remarque, à Electronic Arts, ça j'ai remarqué.
C'est vrai.
Mais honnêtement, si Blizzard faisait bien son taf, pour moi ça aurait dû être ce type de démarche qui aurait dû être l'origine de Warcraft 3, quoi. Vous mettez le code open source, vous faites ce que vous voulez, et merci à la communauté pour tout ce que vous avez fait, parce que si Warcraft 3 s'est vendu pendant des années comme il s'est vendu, c'est aussi parce qu'il y avait des modeurs, hein.
Bien sûr. Ah oui, non, mais enfin c'est un jeu qui est une pierre angulaire maintenant à Warcraft 3. Et ce remaster, ça aurait dû être un carton tout cuit dans le bec de Blizzard, tu vois. Et au final, on l'a presque oublié, ce jeu, tu vois.
Ouais.
Et bon, c'est pas pour rien, parce que...
Je pense qu'on l'a oublié volontairement aussi.
Parce ah oui, que, bien sûr, mais enfin...
C'est quand même une licence qu'on affectionne particulièrement, et je t'avoue que ils bossent apparemment, enfin je sais pas si c'est une rumeur ou si ça a été officialisé, mais je crois qu'ils bossent sur un remaster ou un remake de Diablo 2. J'espère que ça sera pas un produit vite fait, mal fait, comme Warcraft 3, quoi. Parce que Warcraft 3, très clairement, moi je pense que c'est des contraintes de budget aussi derrière, tu vois. C'est-à-dire qu'on leur a dit, le jeu, vous le sortez, et puis point barre, quoi, tu vois.
Ouais. Mais tu vois, c'est bizarre, parce que autant le remake, enfin le remaster de StarCraft a été plutôt correct et plutôt bien accueilli, autant je sais pas pourquoi Warcraft 3 ça a été fait, mais sans queue ni tête. Je sais pas ce qui s'est passé. Alors effectivement, il y a certainement des contraintes de budget, mais alors des contraintes de budget sur un remaster de Warcraft 3, s'il te plaît, s'il y a bien un jeu sur lequel il faut que tu te sortes les doigts, c'est Warcraft 3.
C'est un jeu culte,
enfin,
quoi.
Enfin, ouais, c'est scandaleux.
Parce que là, LGBD nous dit qu'il y a le même souci sur Mafia 2. Ah, Déjà, pas Glop. Mais à la limite, Mafia 2, tu sais, bon, il y a des fans de Mafia, tu vois, mais c'est pas... Oui. Ça m'étonne pas plus que ça, en fait, vu le studio derrière, enfin, vu ce qui s'est passé sur la licence Mafia, en particulier sur le 3, tu vois, oui. Que ça chie dans la colle, ça m'étonne pas plus que ça. Par contre, que Blizzard fasse ça, je t'avoue que ça... Bon, on sentait un peu le coup venir, tu vois, avec les reportages de Jason Schreier sur l'ambiance chez Blizzard, etc., sur le fait que les financiers prennent de plus en plus d'importance, qu'Activision a de plus en plus la main sur le studio, ce genre de choses.
Oui.
Mais là, ça plus la fameuse BlizzCon, Do you guys not have phones? Enfin, voilà, enfin, vous voyez, ils visent un early après Fool's Joke. Enfin, voilà. Blizzard, on sentait un peu le rancis, mais on se disait, bon, il y avait toujours cette idée derrière que, ok, même s'ils font des produits, tu vois, très, comment dire, calibrés, Blizzard,
ouais.
C'est toujours des produits bien finis. Et là, avec Warcraft 3, même ça, ça a sauté. Ouais. C'est ça le truc, quoi. C'est ça le truc que j'ai trouvé ouf sur Warcraft 3, c'est que Blizzard, quoi qu'on pense de Overwatch, de machin, de bidule, de trucs, c'était toujours des trucs propres. Et là, c'était vraiment le truc torché à la va-vite, vas-y que je te pousse. Enfin, c'était honteux.
Voilà. Ouais. L'image se fissure. Bon. On va passer à la suite avec Serious Sam 4 qui pour le coup nous a appris cette semaine que sa sortie console donc PS4 et Xbox One était reportée en 2021 parce que son exclusivité console entre guillemets elle est sur Stadia. Rappelons que le jeu sort au mois d'août, est édité par Devolver Digital et il sortira donc sur Stadia et sur Steam au mois d'août.
Alors bon, c'est la séance tacle Devolver Digital, hein, je vous dis, j'ai mis juste cette news pour ça, parce que
ouais, je m'en doutais.
Devolver Digital, quand même, c'est pas les derniers, tu sais, à faire des conférences en mode « ouais, on est les rebelles de l'industrie, on est différents des autres, t'as vu un peu, on se moque des gros éditeurs, machin ». Je suis désolé, ce move-là, c'est dégueulasse. Enfin, franchement, n'importe quel éditeur ferait ça, on trouverait ça discutable. Au minimum, tu vois, enfin...
Au minimum, oui.
Au minimum. Là, je suis très gentil, tu vois. En vrai, n'importe quel éditeur fait ça, il se ferait déchirer la gueule. En vrai, ouais. Tu vois. Bon, en même temps, n'importe quel éditeur intelligent ne ferait pas ça, mais... après, le truc, c'est que je pense que, bon, enfin, j'espère que le chèque de Google était intéressant, quoi, parce que...
Bah, alors, intérêt,
certes,
oui.
On me dira, Serious Sam, c'est une licence PC, on va pas se le cacher, oui. C'est pas une grosse licence sur console, machin. Mais quand même, faire un doigt d'honneur aux joueurs console, parce que Stadia... Voilà, bon, après... Voilà, c'est le problème des exclusivités, parce que on en parlait sur Epic, etc. On disait oui, mais Epic, le truc est accessible. Mais je disais oui, mais le problème, c'est que le jour où ça sera une plateforme qui vous arrange pas.
Ouais.
Comme par exemple Google Stadia, parce que là, Stadia, pour le coup, c'est une vraie barrière à l'entrée, hein. Tout le monde n'a pas la fibre.
Ah, bah, oui. Ouais, c'est clair.
Enfin, je suis désolé. Donc, Devolver Digital, j'espère que vous aurez juste la décence de pas faire une conf en mode rebelle cette année, quoi, parce que vous êtes un peu foutu de la gueule du monde, quoi. Voilà.
Bah, là, honnêtement, c'est vraiment un move de bâtard, parce que, et tu le disais très bien, c'est vraiment un doigt d'honneur, parce que vraiment décalé à 2021, une sortie sur Xbox One et sur PS4, donc plusieurs mois après la sortie des nouvelles consoles, c'est quand même aussi te dire bon bah au final on s'en foutait un petit peu quoi.
Oui, c'est ça. C'est en gros ils ont vu le chèque. C'est ça. Ils se sont dit on va en vendre combien sur console à votre avis? OK, on va prendre le chèque. Enfin voilà, c'est
ouais, c'est ça. Hein.
Ils ont pas réfléchi autrement et bon, voilà, je trouve le move très discutable et j'avoue que je suis un peu déçu de Devolver sur ce coup-là quoi. Franchement voilà.
Ouais, c'est vraiment un move de businessman et pour le coup, Devolver, c'est pas du tout cette image qu'ils avaient l'habitude de renvoyer.
Non, mais ça montre que la communication a ses limites.
C'est ça. Oui, ça montre aussi que tout le monde est plus ou moins pareil, quoi.
Oui.
Alors, Ghost of Tsushima. On en a longuement parlé la semaine dernière.
Oui.
Et on avait pas mal de, notamment avec Tyran, on était rentré dans le détail de ces 18 minutes de gameplay, etc. Mais on avait encore pas mal de questions qui restaient en suspens, puisque bah on n'avait pas spécialement, enfin on savait pas comment se jouaient les combats, etc., etc. Et on a eu pas mal de petites nouvelles, notamment dans une interview qui a été publiée chez IGN Nordic. Je savais même pas qu'il y avait des déclinaisons localisées chez IGN, mais bon, voilà.
D'un tu sais certain qu'on a Nate IGN Fox. France aussi, hein, mon cher.
Oui, ça je savais, mais je savais pas qu'il y avait genre IGN Nordic, tu vois. Donc Nate Fox, qui est donc le game director de Ghost of Tsushima, qui a donné une interview assez sympathique chez IGN pour détailler un certain nombre de points sur son jeu, qui sortira donc le 17 juillet, rappelons-le, et notamment sur les combats, l'histoire, l'exploration, etc. Donc on va commencer point par point, notamment l'histoire. Alors, moi, ce que j'ai retenu de ce qu'il racontait, c'est que l'histoire, elle est surtout centrée sur le personnage de Jin, donc qui est le personnage principal, qui est un samouraï sur l'île de Tsushima, sur laquelle il a toujours vécu, et qui va petit à petit, face à l'invasion mongole, devenir le ghost. D'où le nom du jeu. Et donc ce ghost, c'est un combattant qui abandonne petit à petit en fait le code du samouraï, le Bushido. Et ça m'a intéressé, parce que pour le coup, ce que j'avais vu dans les 18 minutes de gameplay, ça m'avait plutôt laissé penser que il y aurait vraiment une dualité de gameplay. Entre le samouraï d'un côté et le ghost, et tu choisissais plus ou moins ta voix. En réalité, l'histoire du jeu, et ce vers quoi elle va tendre, c'est plutôt te faire jouer le ghost. C'est pas ce que j'avais compris, moi. J'avais compris plutôt, toi tu choisis ta classe, tu peux changer si t'as envie bien sûr, mais tu peux très bien jouer l'intégralité du jeu en samouraï. Mais ça va, a priori, ça va plutôt créer de la dissonance ludonarrative, puisque l'histoire va plutôt être celle du ghost, enfin de la transformation en ghost, plutôt que celle de...
Alors
du
attention,
samouraï,
parce qu'il précise bien que tu pourras faire tout le jeu en samouraï si tu veux.
Oui, c'est ce que j'allais dire. Mais du coup, tu vois, c'est compliqué parce que oui, tu peux jouer en samouraï tout le jeu si t'as envie, mais derrière, en fait, dans toutes tes cutscenes et dans ta quête principale, a priori, on va te faire penser que, enfin, la narration est créée pour tendre vers le ghost, donc.
Bah après,
je sais pas,
c'est la question
que
je me pose, c'est que si par exemple tu joues vraiment un pur samouraï du début à la fin, est-ce que ça change les cutscenes? Enfin,
c'est ça.
C'est vraiment la question que je me pose, quoi.
Mais du coup, quand j'ai lu ça, je me suis dit, ça a pas l'air. Ou alors c'est mal exprimé.
Bah parce que je sais pas si tu te rappelles ce qu'on faisait remarquer la semaine dernière, notamment le fait que la mission en samouraï n'avait rien à voir avec la mission en ghost.
Ouais.
Est-ce que il y a pas deux branches de narration? Tu vois, c'est la question que je me pose.
Il a précisé que la mission qui avait été montrée, justement, c'est une mission secondaire.
D'accord.
C'est une quête secondaire et pas de la quête principale.
D'accord.
Et c'est ça aussi qui a attiré mon regard. C'est, je me dis, du coup, la quête principale, ça se trouve, en fait, elle va vraiment être linéaire vers le ghost, quoi. Donc, voilà, ça pose plus de questions que ça ne répond à nos interrogations. Mais bon, je vais passer là-dessus. Effectivement, il dit que on peut s'en sortir en ne jouant que samouraï, mais a priori, ça sera plus dur. Parce que justement, tout le principe du début de Ghost of Tsushima, c'est que l'invasion mongole prend vraiment de court les samouraïs qui vivent sur Tsushima, et que l'idée, c'est que la voie du Bushido ne suffit pas à leur faire face. Et
bah, donc, disons qu'ils se sont un peu tous fait massacrer, qu'ils doivent être quatre pèlerins et être encore des samouraïs, et que bon, la jouer la régulière, c'est un peu compliqué, quoi.
C'est ça. Que Jin, du coup, va se rendre compte qu'il va être obligé de faire autre chose et d'aller plus loin que le Bushido pour s'en sortir et surtout, bah, mener à bien sa quête de vengeance. Donc, c'est possible, mais du coup, ça sera plus dur. Donc ça risque d'être intéressant pour les joueurs qui aiment bien le challenge. Et quand on parle de challenge, c'est intéressant puisque on parlait combat la semaine dernière, on se disait mais comment ça se joue? Parce que pour le coup, il avait l'air de vraiment s'en sortir comme un chef et de défoncer à peu près tout ce qui passait devant lui.
Alors d'après l'interview, la personne qui jouait était expérimentée.
Non.
Oui. C'est pour ça que le résultat est très propre. Mais apparemment, ce sera, en tout cas en samouraï, un jeu qui aura beaucoup plus de challenge qu'en ghost, quoi. Parce que tu l'as joué à la régulière. Et je pense que ça, c'est dommage qu'ATH soit pas là cette semaine, parce que lui, justement, on en avait discuté pas mal par téléphone. Mmh. Et il me disait que lui, il espérait vraiment que... Bah, de toute façon, il le disait bien, tu sais, quand il parlait de Bushido Blade, etc. Il espérait vraiment un système qui émule le côté samouraï, quoi. Le côté ouais. Tu donnes un coup, tu meurs, etc. Et apparemment, le samouraï sera assez fragile en plus, quoi.
Ouais, c'est donc il a vraiment dit que c'était possible de mourir en quelques coups, qu'il fallait faire très attention à pas se retrouver avec beaucoup d'ennemis face à toi, parce que sinon bah tu vas te faire gangbang. Et puis les duels contre d'autres épéistes expérimentés.
Ça ils l'ont pas montré par contre. Hein.
Ça ils ne l'ont pas montré, ils regrettent un petit peu de pas l'avoir montré dans cette
mais il faut un peu de surprise les gens aussi quoi, c'est bon. Laissez les gens découvrir votre jeu quoi.
C'est ça. Et il a l'air de dire que ces duels là sont assez ardus et qu'il faudra surtout regarder comment attaque l'adversaire pour bien faire attention à comment il faut riposter. Et quand tu te dis que a priori tu peux mourir en quelques coups de sabre, ça serait pas surprenant que ce genre de phase de duel là, tu les reprennes assez souvent, parce que c'est compliqué de faire face, quoi.
C'est ça.
D'autant plus si les épéistes ont différents styles de combat, etc.
Oui. Et puis surtout, si tu joues pas Ghost, tu peux pas faire n'importe quoi non plus, quoi. Parce que le Ghost, le principe du personnage quand même, c'est que il peut utiliser n'importe quelle tactique, même si elle est pas fair play, pour se débarrasser de son adversaire.
C'est ça.
Ce que ne peut pas faire un samouraï.
Bien sûr. Donc voilà, tout ça, moi, ça m'intéresse quand même. Tu sens qu'il y a quand même de la profondeur dans le gameplay et il y a des possibilités pour des joueurs comme toi et ATH notamment qui attendent un jeu qui est pas juste un Infamous chez les samouraïs, quoi.
Mais du coup, c'est peut-être intéressant aussi dans le sens où je me demande si le fait de pouvoir jouer Ghost, c'est pas une manière interne au jeu de gérer la difficulté, si tu veux, quoi. C'est-à-dire que si tu veux la jouer hardcore de Mikui, n'est-ce pas?
Ouais.
Tu joues pur samouraï, hein. Et si tu veux avoir un jeu un peu plus accessible, tu la joues Ghost, quoi.
Ouais, mais ça serait malin, hein, de gérer ça comme ça.
Oui.
En parlant du coup de difficulté, il y a un autre truc qui m'a interpellé dans ce qu'il racontait chez IGN Nordique, c'est notamment le fait que il y a beaucoup de quêtes secondaires qui sont mises en place dans le jeu, et le jeu de toute façon t'encourage à les faire, mais il a l'air de dire quand même que si tu fais beaucoup de quêtes secondaires avant la quête principale, ça risque de te rendre plus fort. Par rapport au niveau réel de la quête principale. Donc moi évidemment ça me fait penser au syndrome Skyrim. On le sait tous, Skyrim, t'as qu'une envie, c'est de te balader aux quatre vents, et derrière, quand tu reprends la quête principale, bah tu roules sur tout le monde.
Oui.
Ça me fait peur un petit peu sur Ghost of Tsushima, pour le coup.
Bah après, il faut voir, parce que je sais pas si tu te rappelles, mais il montrait que tu allais récupérer des techniques, etc., au fur et à mesure, qui développaient les mouvements de ton personnage, quoi, on va dire. Et c'est pas non plus... exactement dans Skyrim, ou dans le sens que Skyrim c'est vraiment le RPG typique où t'as des chiffres qui sont plus gros, tu vois, et comme c'est des chiffres plus gros tu tapes plus fort. Et voilà, là il y a quand même l'idée que je pense si tu fais plus de quêtes annexes, tu vas débloquer peut-être plus de possibilités d'approche. Alors certes ça sera plus difficile, mais en même temps c'est un choix que tu as fait, tu vois, et ça reste intéressant quand même d'un point de vue gameplay d'avoir plus de choses à ton arsenal, quoi, entre guillemets.
Mais
je pense que si c'est fait intelligemment, ça sera pas trop un souci non plus, quoi. Et puis surtout c'est un choix, quoi, une fois.
Oui, parce que rappelons quand même que c'est pas un RPG, hein. Il y a un skill tree, hein, bien sûr, mais il y a pas de système d'expérience, de niveau ou quoi, hein.
C'est ça.
Donc ce qui devrait quand même aider à pas spécialement, enfin à pas devenir complètement OP face à la quête principale. Autre chose dont on parlait la semaine dernière, c'est le fait que est-ce que ça va être une carte open world classique hyper remplir à la gueule machin. Pour l'instant, on n'en sait pas grand-chose, mais on sait qu'elle va être très grande. C'est en tout cas ce que dit Nate Fox.
Parce qu'il disait que la carte était hyper zoomée sur la démo qu'on a vue.
Il dit, je cite d'ailleurs, que c'est leur open world le plus grand qu'ils aient fait de leur histoire.
Youpi.
Et en plus, je cite, la carte est remplie de gens, d'objets et d'histoires à explorer. Donc voilà.
Bah écoute, si c'est bien fait, moi je veux bien. Hein, mais ouais. L'expérience m'a montré que plus c'est grand, plus c'est copier-coller, quoi. Donc, j'attends de voir. Non.
Ouais.
On jugera sur pièce, mais j'ai un peu peur quand je lis ça personnellement.
Non, le développeur a pas expliqué pourquoi il y a autant de vent dans Tsushima. Mais bon, c'est... Ah si, d'ailleurs, il l'a dit, mais c'est pas dans cette interview. Mais bon, bref, il a dit grosso modo qu'il y avait beaucoup de vent dans les films de Kurosawa, et du coup, il s'est dit qu'on allait mettre beaucoup de vent aussi. Voilà, c'est plus ou moins ça. Donc c'est un peu une connerie, mais bref. On rappelle quand même que le vent dans le jeu est aussi utilisé pour t'emmener, enfin, comme pointage, système de guidage dans le monde si tu as envie. Donc voilà, il a trouvé sa bonne excuse, comme tu dis. Voilà, est-ce que t'as quelque chose à rajouter sur Ghost of Tsushima ?
Non, mais je vais laisser LKB dire le mot de la fin. Hein. Alors, du coup, s'il est ghost, est-ce que les Mongols seront des Ghostbusters ?
En tout cas, moi, ce que j'apprécie, l'air de rien, c'est que c'est quand même un jeu dont on a envie de discuter bien avant sa sortie. C'est rare quand même qu'on ait des jeux comme ça. Ouais, c'est un jeu intrigant. Donc ça c'est quand même assez rare pour le noter, et c'est assez rare aussi qu'on passe autant de temps dans les news pour parler d'un jeu spécifique dans le podcast. Donc ça montre quand même qu'il y a quelque chose, quoi.
Bah en tout cas, moi j'aime bien certaines choses que j'ai dit dans son interview, notamment le fait que oui, le fait que l'interface soit planquée, c'est totalement volontaire. Il ne voulait pas que les gens regardent l'interface. C'est écrit noir sur blanc, et ça déjà c'est bien, quoi. Enfin, des gens qui ont compris.
C'est ça.
Donc, toujours aussi curieux. Bon, il y a des choses qui me font un peu peur, mais d'un autre côté, je suis pas étonné. Parce que dire aux gens, ouais, on a fait un open world de taille réduite 8 pour faire des choses, les choses bien, tu vois. Je sais que c'est pas vendeur. Donc, évidemment qu'on va toujours te dire, ouais, on a fait des choses toujours plus grandes, toujours plus belles, etc. J'espère juste que, voilà, ce sera bien fait. Je ne demande qu'à être contredit.
Espérons-le. Donc on verra sur pièce le 17 juillet. Exclusivité sur PS4 bien sûr. Alors continuons. Alors cette fois c'est Nintendo, c'est pas Sony. Nintendo qui explique que voilà, il y a des difficultés qui se mettent en place à cause du coronavirus, hein, de la pandémie, on le sait, le télétravail, etc. C'est compliqué à mettre en place, et particulièrement au Japon, nous dit Nintendo. Alors c'est le président de Nintendo, hein, Shuntaro Furukawa, qui le dit, qui s'attend à un impact important sur son travail d'éditeur.
Ah bon, on n'est pas dans la merde.
Ouais, c'est clair, c'est clair. Mais non, mais c'est vrai, comme tu dis, parce que bon, ils disent pas exactement qu'il y aura des retards sur le planning de sortie de la Nintendo Switch, mais de toute façon, on sait pas ce que c'est le planning de sortie de la Nintendo Switch.
C'est bien ça le problème.
Il pourrait très bien y en avoir, qu'on n'en saurait rien. Mm-hmm. Donc, bon, on nous dit quand même que les premiers endroits qui ont été impactés par les délais, ça a été les bureaux en Europe, mm-hmm. puis en Amérique, et ensuite seulement les bureaux japonais. Mm-hmm. Donc, on sait que c'est quand même là qu'est le gros de la force de développement de Nintendo, et que ils ont quand même, et il le dit très précisément dans son bilan, que ça a été compliqué de mettre en place du télétravail là-bas, parce que les équipes sont pas habituées à ce genre de choses. Donc c'est ça aussi qui nous fait dire que le temps qu'ils acquièrent de l'expérience dans ce genre de pratique là, il est possible que ça crée des retards.
Putain, c'est chaud, quoi. Tu dis une boîte comme Nintendo. Bon, tu me diras, c'est des Japonais.
Le Japon, la culture du travail au Japon, c'est très très spécifique.
Ouais. Bah, c'est quand même, tu sais, le genre de culture où les mecs sont obligés d'aller boire un coup avec leur supérieur, parce que, enfin voilà, c'est la tradition, quoi, tu vois. Enfin, c'est.
Parce que le supérieur a dit, tiens, on va boire un coup.
Ouais, c'est
et
ça.
En tant que employé, t'es là, tu dis, bah. Oui, on va boire un coup, oui.
Ouais. J'aurais préféré rentrer chez moi voir ma femme et mes gosses, mais on va boire un coup, ouais. C'est un peu la culture, c'est une culture du travail très particulière, déjà. Alors, je suis pas sûr, alors je suis pas assez connaisseur de la société japonaise, mais là, comme ça, intuitivement, quelque chose me dit que c'est pas quelque chose d'adapté au télétravail, tu vois. Et ce, d'autant plus dans une ville comme Tokyo, par exemple, où les gens sont dans des appartements, comment dire? des cages à poules. Mmh. Je suis pas sûr en plus que les gens soient très réjouis si tu veux de passer en télétravail, quoi. Parce que nous encore en Europe, bon, ça va, on vit dans... Bon, ça dépend en vie, tu me diras, hein, mais même en région parisienne, comparé à Tokyo, je pense qu'on est relativement bien loti. Hein. Relativement, hein, j'entends. Hein. Moi, je pourrais pas vivre ce qu'ils vivent. Hein. Mais je comprends aussi le fait que ce soit compliqué au vu du prix du mètre carré à Tokyo. Mais c'est en plus, ça, plus le fait que la culture du travail... Enfin, vous connaissez toutes ces histoires de producteurs japonais qui gèrent tout de A à Z, qui sont sur le dos de chaque développeur du studio pour leur dire non, ils font faire comme ça, machin et tout. Ça, tu peux pas le faire quand t'es à distance. Tu vois, faut déléguer un minimum. Mmh. Et déléguer, ils savent pas faire, les Japonais. Donc oui, ça va être... je pense que ça va être compliqué, peut-être pas que pour Nintendo d'ailleurs. Mais le problème, c'est que dans le cas spécifique de Nintendo... ils ont une machine alimentée en plus, tu vois, donc c'est compliqué.
C'est ça. Donc, alors c'est très bien hein, pour Paper Mario Origami King. Mais alors derrière, ce qui était prévu pour la fin d'année, parce que je ne doute pas évidemment que Nintendo avait des choses prévues pour la fin d'année, c'est juste qu'on n'en sait rien. Mais voilà, on ne sait pas ce qui va se passer.
Ouais, du coup, Metroid, je suis pas très optimiste, hein, mais je sais pas pourquoi.
Alors, Metroid, en plus, c'est développé aux États-Unis, hein, c'est Retro Studios.
C'est Retro Studios, celui-là, oui. Non, mais tu sais, comme des fois, ils le font pas faire par Retro Studios. Mais oui, c'est aux États-Unis, donc ça va, peut-être avec un peu de chance, on aura quelque chose.
Eh oui, parce que Retro Studios est à Austin, au Texas. D'accord. Donc là-dessus, bon, oui, je leur fais un petit peu plus confiance sur la mise en place pérenne de guides de télétravail. Mais c'est vrai qu'au Japon, c'est
compliqué.
À voir. Mais bon, de toute façon, on s'adapte. Hein. L'objectif, c'est là, il dit que de toute façon, ça a été compliqué sur le début. Mais que il fallait juste un petit peu de temps pour acquérir l'expérience de ces nouvelles pratiques. Mais derrière, bon, voilà. On leur fait confiance quand même pour savoir se retourner. C'est des Japonais. Ils ont une force de travail qui est quand même peu commune. Donc, à voir pour la suite.
C'est comme ça que ça s'appelle maintenant l'esclavage, la force de travail.
Alors, la suite, ça sera la dernière news de cette semaine.
Déjà.
Un petit podcast. Et déjà. Bon, ça fait une heure, hein, quand même qu'on traite de news. Donc, ça va. Quand même. Bon,
en plus, on est que tous les deux, on raconte pas notre vie, donc tout va bien.
Ça va, quand même. On a quand même pas mal tenu. Doom Eternal, ID Software avait mis en place une solution d'anti-cheat qui s'appelle Des Nouveaux.
À ne pas confondre avec Des Nouveaux Anti-Tamper Tech, qui est leur solution, tu sais, pour empêcher le piratage, c'est pas la même chose.
Exactement. Donc là, c'est vraiment Des Nouveaux Anti-Cheat qui est ciblé, et donc il se trouve que évidemment ça posait problème et que c'était assez décrié par la communauté parce que Des Nouveaux Anti-Cheat accèdent directement au kernel.
Voilà, donc c'est du bas niveau dans vos ordinateurs. Ouais. En gros, quelqu'un accède à ce niveau de permission sur votre ordinateur, il fait ce qu'il veut avec votre machine, quoi.
Exactement. Voilà. Donc c'est un gros problème d'un point de vue sécurité et confidentialité.
Il y avait déjà eu ce souci avec Valorant, notamment. Enfin, oui, il y a toujours tout ce à souci fait. Avec Valorant, d'ailleurs.
Oui, parce que ça, pour le coup, c'est toujours en place. Ouais. Et du coup, bon, ID Software a dit c'est bon, on va travailler au déploiement d'une mise à jour dès la semaine prochaine pour l'enlever. Et ils ont d'ailleurs bien précisé que c'est pas Bethesda qui les a forcés à mettre ça en place, c'est que c'était leur idée. C'est marrant hein, quand un développeur dit ça, on ressent bien quelle est la réputation de l'éditeur en question.
C'est vrai que le fait qu'ils se sentent obligés de le préciser, c'est drôle. Voilà, mais comment dire, c'est con que Mamie soit pas là, parce que ça, typiquement, c'était la news Mamie, parce que j'aurais bien aimé avoir une discussion avec lui. Ouais. Je sais que parmi vous sur le chat, notamment, c'est déjà arrivé qu'il y ait des discussions sur le fait que Zititar fasse rien sur la triche, etc. Là, pour le coup, c'est un studio qui fait quelque chose contre la triche sur les jeux en ligne. Le problème, c'est que par rapport à la question de la triche, moi, je pense qu'il y a un débat qu'il faudra qu'on a un jour avec Mamilami. C'est jusqu'où on peut aller pour empêcher les gens de tricher, quoi.
Ouais.
Parce que moi, je veux bien que la triche pour les jeux en ligne, etc. Mais est-ce que au bout d'un moment, avoir ce type de permission sur un ordinateur. Je rappelle quand même que ce logiciel anti-triche a tellement des permissions démesurées sur l'ordinateur que même Kaspersky dit que c'est un malware, hein. Donc voilà, ouais. C'est quand même un petit peu problématique, quoi, si tu veux. jusqu'où on a le droit d'aller pour empêcher les gens de tricher? Moi, ça me paraît quand même un peu délirant, si tu veux, d'aller jusque là pour empêcher les gens de tricher. En tout cas, s'il faut aller jusque là, bah je suis pas sûr que j'ai encore envie de jouer en ligne, quoi, si tu veux. Parce que mettre en péril la sécurité de ta machine en installant ce type de logiciel et tu sais même pas comment ça a été codé, parce que si les choses sont faites proprement, à la limite, admettons, mais je fais pas spécialement confiance à des gens qui sont pas forcément experts en sécurité en plus. Parce que c'est ça le truc, c'est que les mecs, très bien, ils sont experts en anti-triche, mais est-ce qu'ils savent vraiment ce qu'ils font quand ils bidouillent ton kernel, quoi, tu vois? Moi, en tout cas, j'ai pas envie de donner à une boîte privée ce type d'accès à ma machine, quoi. Ouais. Je pense que, bon, le fait que des boîtes comme Microsoft, etc., aient ce genre de permission, c'est déjà... que des boîtes comme Microsoft ou Google, si tu veux, regardent plus ou moins ce qui se passe sur ta machine, c'est déjà problématique. Hein. Mais en plus que des éditeurs de jeux vidéo se permettent maintenant d'avoir des permissions de ce niveau-là sur ton ordinateur, c'est un peu chaud patate quand même, quoi.
Ouais, c'est compliqué, surtout que, nous on est au fait de ce que c'est et de ce que ça veut dire. Mais le Pékin moyen qui installe Doom Eternal et on te dit bon bah voilà, ça c'est pour l'anti-cheat. Mmh. Et tu te dis oui, bien sûr, pourquoi pas. Même chose quand t'as enfin chopé ta clé bêta pour jouer à Valorant, tu te dis ah bah super chouette, j'installe ça direct. Et puis bon, évidemment, hein, c'est un jeu en ligne, alors je veux pas jouer contre des cheaters, donc j'installe l'anti-cheat. Mais derrière, en fait, t'as pas forcément conscience de ce qui se passe derrière.
C'est ça.
Donc je suis assez d'accord. Moi, j'aime bien la solution de on détecte les cheaters, on les met tous dans la même partie. Je sais pas si c'est lié à des nouveaux anti-cheats, mais j'aime bien cette solution-là de on a détecté que t'étais un cheater, bah écoute, voilà, va t'amuser mais avec d'autres cheaters. ça j'aime bien. Derrière, par contre, de choper autant de privilèges sur une machine.
Bah, surtout qu'en plus c'est un cercle vicieux parce que c'est une course à l'armement. C'est-à-dire que les logiciels de les tricheurs. Le logiciel en cheat, il a accès au kernel, nous aussi. Tu vois?
Oui.
Parce que il y a pas de raison. Enfin, au bout d'un moment, c'est une course à l'armement, si tu veux. Ouais. Et tu dis où jusque ça va aller, quoi. Ouais. Et est-ce qu'au bout d'un moment, c'est pas un peu trop?
Et LKBD qui nous dit a raison que Call of Duty Warzone a mis en place un truc comme ça, c'est donc les cheaters ensemble, mais du coup, vu que le jeu est gratuit, ce qui est compliqué, c'est que les cheaters peuvent encore recréer des comptes à volonté. Et il me semble que le palliatif qui avait été trouvé à ça, c'est que pour créer un compte, il faut mettre un numéro de téléphone ou un truc comme ça. Et vu que c'est quand même un peu chiant de créer des numéros de téléphone, peut-être que ça a pu éventuellement les emmerder de ce point de vue-là, parce que justement je crois que ça refusait les numéros de téléphone qui étaient créés automatiquement, parce qu'évidemment il y a des logiciels pour ça, donc je sais pas exactement comment ils en sont, ce que ça a donné, mais bon. C'est compliqué, hein, la lutte anti-cheat de toute manière. Enfin, t'as l'impression que c'est un éternel recommencement, que de toute façon les cheaters trouveront toujours une faille.
Il n'y a pas de solution. Ici, c'est comme le piratage, si tu veux, quoi. Au bout d'un moment, tu peux faire en sorte de ralentir les choses, de diminuer l'impact du phénomène. Pour moi, c'est surtout ça qu'il faut chercher à faire, en fait.
C'est
le diminuer au maximum, mais tu pourras jamais totalement l'endiguer. Ou en tout cas, si pour totalement l'endiguer, il faut passer par ce type de permission, moi, je suis pas d'accord. Et surtout, là où je pense qu'il y a un gros problème vis-à-vis du consentement des joueurs, c'est que le jeu a pas été vendu comme ça au départ.
Ouais.
Et il y a des joueurs solo qui se sont retrouvés avec cette merde d'installer, alors qu'ils jouent pas en ligne.
Ben, bien sûr.
Et c'est quand même un poil problématique. Et encore une fois, ça montre la problématique de ces jeux que tu peux patcher à n'importe quel moment et où tu peux mettre des choses totalement dégueulasses alors que t'avais acheté un jeu clean à la base, quoi.
Ouais.
Bon, là, on a un studio qui a pris la bonne décision, hein. Mais rien ne dit que dans le futur, t'auras pas un studio qui dira, bah écoute, non, on laisse comme ça, quoi. Puis voilà.
Mais la bonne décision, de toute façon, c'est pas mettre cette merde, quoi. C'est tout. Enfin, c'est ça, quoi. Mais, en fait, moi, j'ai toujours du mal à comprendre, malgré le fait qu'on en parle depuis des années, c'est quoi l'intérêt de cheater, quoi.
Ouais.
C'est... Quel
j'ai
est l'intérêt?
Jamais compris le plaisir que les gens prenaient à tricher. Franchement...
Alors après, est-ce que c'est le plaisir de faire chier le monde? Et là, je peux comprendre, du coup, puisque bah, sur Internet, il y a beaucoup de ça, mais c'est juste ça.
Ouais, enfin... c'est... Enfin, je sais pas... Surtout que tu profites pas du jeu. Enfin, c'est pas ton skill qui fait que tu gagnes, c'est pas ton intelligence de jeu, c'est... En fait, peut-être qu'il y a des gens aussi, le simple fait de gagner et d'utiliser n'importe quel moyen pour gagner, ça les satisfait. Hein. Peut-être que c'est ça,
ouais,
tout simplement. Hein. On va chercher trop loin, en fait, tu vois. Nous, tu sais, on pense que l'important dans un jeu, c'est le gameplay, etc. Non, il y a des gens pour qui le seul intérêt de jouer, c'est de gagner, quoi, en fait.
Ouais, c'est possible.
Mais bon, à vaincre sans péril, on triomphe sans gloire, mon cher Mandren, n'est-ce pas?
Ça, c'est pas intéressant. Chris qui nous dit, cheater, c'est comme prendre des anabolisants. Polotube qui nous dit, bah, l'intérêt, c'est le plaisir de faire chier le monde et d'être considéré comme un dieu. Bah oui, je pense que vous avez mis le doigt dessus, hein.
Ouais, mais le problème, c'est que maintenant, en plus, t'es plus considéré comme un dieu parce que le pire, c'est que ce phénomène est tellement généralisé sur certains jeux, je pense notamment en PUBG ou ce genre de choses.
Ouais.
Que des fois, il y a des gens qui se retrouvent accusés de cheat juste parce qu'ils jouent bien, en fait. Tu vois.
C'est vrai.
Et le problème de ce truc-là, c'est que ça crée de la parano chez les gens, quoi, en plus. Donc, il y a même plus de plaisir, tu sais. Enfin, même si tu triches, de toute façon, on reconnaîtra pas, entre guillemets, ton skill parce que les gens, quoi que tu fasses, que tu triches ou pas, ils seront persuadés que tu as triché, de toute façon.
Donc, c'est quelque chose qui n'arrivait pas sur StarCraft 2, puisque tu te fais rouler dessus, c'est normal, en fait.
C'est ça.
Bon, c'est je pense qu'on peut conclure là-dessus notre podcast 338 de cette semaine. Mm-hmm. Alors, je suis plutôt content, on a bien tenu à deux, malgré les circonstances. Donc, voilà, 1h10 de podcast. On va évidemment remercier les gens qui nous ont suivis en direct sur Twitch. Évidemment, ceux qui nous ont écoutés en replay sur le site, sur vos applications de podcast, etc. On vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau podcast, en espérant être un peu plus que deux cette fois. Et puis on vous fait de gros bisous, à la prochaine, portez-vous bien. Salut à tous.
Des bisous.